Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Ah, ça parle de voitures hors antenne, hein. La Mi 6, la Mi 8, la Renault 5, c'était le bon temps à l'époque. Hein. Restez avec nous tout de suite, c'est le petit déjeuner de l'actu dans quelques instants. Hein. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Éric Revel. Et on passe à la presse ce matin. Qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, alors en une de la Provence, des perquisitions au domicile de Gaudin.
Et oui, hier, les deux maisons de l'ancien maire de Marseille ont été perquisitionnées par les gendarmes. Affaire d'autant plus embarrassante qu'elle implique son premier cercle qui était sous sa responsabilité. Direct. Selon la Provence, l'instruction porterait notamment sur l'emploi de plusieurs très proches collaborateurs de l'ancien maire. Ouais. De la politique à la une du Figaro avec des élections régionales à haut risque pour La République en marche. À 4 mois désormais du scrutin, la majorité présidentielle peine à trouver des candidats de poids. La crainte de résultats médiocres fait fuir certains ministres, notamment le Figaro qui nous parle de Jean-Michel Blanquer ou encore de Gabriel Attal qui ont par exemple invoqué la crise sanitaire pour ne pas affronter Valérie Pécresse en Île-de-France.
Oui, dans la DPJ du midi, c'est l'alerte hein, sur nos hôpitaux face au piratage informatique dont nous avons parlé d'ailleurs tout à l'heure.
Oui. Avec Éric Revel, effectivement, après l'hôpital de Dax, c'est celui de Villefranche-sur-Saône qui a été attaqué donc lundi par des cyberpirates, qui réclament des rançons. Dans le monde entier, en tout cas, ces actes criminels se multiplient, profitant depuis un an de la crise sanitaire et mettant en jeu, bien sûr, la vie de nombreux patients. De son côté, Libération relaie un appel, celui de 3 députés, pas du même bord politique, qui demandent la légalisation du cannabis. Les signataires, ce sont Daniel Obonneau pour la France Insoumise, Robin Reda pour les LR ou encore Jean-Baptiste Moreau pour En Marche. Cela relève du courage politique, disent-ils. Il faut réguler les drogues plutôt que leur faire la guerre. Dossier complet donc à retrouver ce matin dans Libération.
Oui, et dans Sud-Ouest, alors c'est un nouveau phénomène qui fait la une.
Oui, celui du boom du pique-nique. Bah oui, les Bordelais prennent leur déjeuner dans la rue. Forcément, les restaurants sont fermés et ça a beaucoup d'impact, notamment sur la propreté. Bah oui, en témoigne cette illustration, la photo de gobelets, de papier gras jeté dans la rue, en l'occurrence des emballages d'une marque de fast-food bien connue. Outre ces déchets qui s'accumulent, que l'on retrouve de plus en plus au sol, et bien il y a aussi, avec le retour du pique-nique, d'autres questions qui se posent, notamment celui par exemple du manque de bancs dans les rues de Bordeaux, comme l'indique Sud-Ouest, qui souligne que la ville doit s'adapter.
Oui, et encore, il faut attendre aussi les beaux jours, quoi. Donc bon, là c'est vrai qu'on repart
ça commence
vers la douceur, donc ça va mieux. Mais c'est vrai que oui, je pense que ce n'est pas un phénomène unique à Bordeaux de plus en plus. Comme il n'y a pas de restaurant, les gens essaient de se retrouver sur des bancs, des pique-niques pour pique-niquer ou alors sur des petits murets un peu à droite à gauche. Ouais. Et puis évidemment, l'équipe qui revient sur la victoire écrasante du PSG à Barcelone avec des Parisiens galactique.
Oui, victoire 4-1 hier soir face aux Catalans, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'équipe qui écrit que les Parisiens ont livré un match exceptionnel devant un Barça déconfit. Et puis deux chiffres peut-être importants ce matin dans le quotidien sportif. 9 sur 10, c'est la note déjà obtenue par Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, auteur d'un triplé hier soir. Puis un autre chiffre enfin, 100%, c'est le pourcentage d'équipes qui se sont qualifiées donc, en Ligue des Champions après avoir gagné 4-1. À l'extérieur, voilà, faut pas s'oublier pour le match retour.
C'est vrai, oui. Voilà, parce que attendez, sinon face à Barcelone, quand même, on se souvient que ce n'était pas possible hein, après la victoire au match aller et qu'il y a eu cette fameuse remontada en 5 minutes. Quoi. Donc, grosso modo, attention quand même, soyons prudents. Surtout qu'au niveau des pronostics, on n'est pas forcément les champions du monde. Hein. Vous vous souvenez, hier, Benjamin, tiens, bien écouté.
La victoire de Barcelone, 2-1.
Voilà.
Bah oui, j'étais très mauvais, mais comme quoi.
Et moi, j'étais encore plus mauvais que vous. 3-1.
J'étais la plus proche, j'avais dit un partout.
Hein, oui, un partout.
Mais comme quoi, le seul qui avait au moins le bon vainqueur dans l'équipe de Sud Radio, il faut le dire, c'était Félix Mathieu qui avait parié sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui s'y connaisse le mieux en football.
Alors, c'est ce que j'allais vous dire.
Chacun a sa chance.
Il n'y connaît rien au foot. Ouais.
Je crois qu'il ne fait même pas la différence entre le rugby et le football, pour vous dire.
On lui a dit que Mbappé jouait au Paris Saint-Germain ou pas? Non,
ça, je crois qu'il commence à savoir.
Commence à le savoir. Ouais.
Bon, on va l'entraîner.
Allez, Mbappé qui vient, de la Côte d'Azur aussi, même si il a grandi en région parisienne. Ensuite, il a été formé du côté de Monaco. Transition de trouver pour aller du côté de Nice avec Denis Caro, directeur de rédaction de Groupe Nice Matin. Bonjour Denis.
Bonjour Patrick.
Bon, on va pas forcément parler football avec vous si en une de Nice Matin ce matin.
Non, mais on a notre Mbappé à nous. Il s'appelle Mathieu Fèvre, qui est devenu hier le premier skieur de la Côte d'Azur à décrocher un titre de champion du monde en Italie à Cortina d'Ampezzo.
Ouais.
C'est aussi le premier à être couronné dans une discipline nouvelle au championnat du monde. Ça s'appelle le ski parallèle. C'est extrêmement spectaculaire puisque ça met aux prises deux skieurs qui s'affrontent côte à côte.
Ah
alors
oui,
c'est vrai qu'en cette période plutôt morose, nous ne boudons pas notre plaisir à Nice ce matin et on affiche fièrement la victoire de Mathieu en une du journal.
Non, ben c'est vrai, ben vous avez raison d'insister. En plus, c'est assez spectaculaire parce qu'on voit la confrontation directe, quoi, plutôt que les chronos sur les autres courses. Hein, donc ça, c'est vrai. Autre sujet, Denis, à la une de Nice ce matin.
Autre sujet à la une de Nice ce matin, on a décortiqué les chiffres des morts de la Covid-19 en 2020. On a pris des chiffres du CHU de Nice pour aller un peu au-delà des chiffres officiels et voir meurt vraiment des conséquences du virus. Les chiffres sont intéressants, les graphiques aussi. La moyenne d'âge est de 82 ans et la conclusion de notre dossier, c'est des choses qu'on sait mais qui sont vraiment confirmées par les chiffres, c'est que les décès sont vraiment exceptionnels avant 65 ans. Il y a 6 personnes qui sont mortes des suites de la Covid au CHU de Nice. Elles ont entre 46 et 65 ans et souffraient toutes d'autres maladies avant d'être infectées par le virus.
Ah ben ça, c'est une enquête particulièrement intéressante. Donc depuis le début, hein, c'est ça, Denis Caro. Ça porte à peu près sur combien de personnes ? Vous avez des chiffres
alors,
ou pas, non ?
Là, les chiffres portent sur 141 décès qui ont été reliés directement au virus au CHU de Nice. Et ça confirme que la plupart des gens qui sont en réanimation ou qui décèdent ont des pathologies lourdes ou sont très âgés. Alors, ce n'est pas que leur vie a moins de valeur, simplement, très factuellement, c'est le résultat des chiffres que nous nous sommes procurés.
Oui, absolument. Bah, enquête très intéressante. Hein. Donc, à lire dans Nice Matin aujourd'hui, ou d'aller, pour ceux qui ne sont pas dans la région, et bien sur le digital également, pour lire cette enquête, parce que c'est vrai qu'on devrait la faire un petit peu partout, comme ça, pour avoir ces détails, hein, des personnes qui ont été touchées et qui sont décédées. Merci, Denis Caro. Je rappelle que vous aviez déjà mené une telle enquête. Hein. Il y a des chiffres qui étaient un petit peu contradictoires avec des chiffres officiels. Il y a déjà de cela quelques semaines. Merci à vous, Denis Caro de Nice Matin.
Restez avec nous, hein, le petit déjeuner de l'actu. Juste dans un petit quart d'heure, hein, sera avec nous ce matin le nouveau candidat à la Fédération française de football. Hein, Frédéric Thiriez sera avec nous. Vous pouvez nous appeler d'ores et déjà 0826 300 300, même si c'est le répondeur. On vous rappellera bien sûr pour participer à l'émission. En attendant, le petit déjeuner
parce
de
que
l'actu.
Sur ces questions, bah, vous pouvez peut-être l'interroger sur la Fédération française, comment elle est organisée, pourquoi lui il est candidat, est-ce
son
qu'il
programme.
Y a un système, etc. Pourquoi des matchs sont interrompus par exemple à partir de la Nationale 2 et qu'on ne joue pas avec des précautions en fait minimum. Enfin, il y a énormément de questions. Et puis, il y a une autre question, c'est vrai, qu'on posera aussi. Et, j'avais cru comprendre qu'il y avait une liste de soutien, elle a été retirée. Mmh. Visiblement, il y a de la pression dans l'air, donc on verra ça avec Frédéric Thiriez. Allez, le petit déjeuner de l'actualité avec Alexis Poulain donc, et Elisabeth Lévy. Donc, on va parler du passeport vaccinal peut-être tout à l'heure, hein, parce que c'est notre question du jour. Oui. Et là, majoritairement, vous êtes plutôt contre le passeport vaccinal. Et on verra aussi avec une avocate qui sera avec nous tout à l'heure à 9h. Que c'est vrai, il y a peut-être un principe d'égalité qui n'est pas respecté.
Bon, ça,
vous allez défendre. Ah ouais. Vous allez défendre cette question, mon cher Alexis. Avant cela, donc revenons sur votre chronique de tout à l'heure qui fait un peu réagir, ce qui est normal, sur l'enquête sur l'enquête lancée par Frédéric Vidal sur l'islamo-gauchisme à l'université. Redites-nous quelle est votre position.
Moi, je critique. Frédéric Vidal, pour employer ce mot valise qui est islamo-gauchisme. Oui. Parce que oui, l'université, la recherche est libre, hein, elle n'a pas à être encadrée par l'État, sinon ça voudrait dire qu'on serait plus dans une démocratie libérale. Donc c'est important déjà de souligner ça. Et ensuite, oui, il y a des débats sur les enquêtes sur le racialisme, les décoloniaux, il y a aussi un entrisme islamiste réel dans certains quartiers et dans certaines universités qui mérite débat. Mais pas ce débat-là, pas le fait de dire on va mettre dans un paquet islamo-gauchiste et dire voilà, puisque vous êtes universitaire et un peu de gauche et donc vous êtes vous faites le lit de l'islamisme, non. C'est faux. Et je crois que c'est dangereux qu'un ministre utilise ces termes-là. Et d'ailleurs, c'est le sens unique du communiqué de presse de la conférence des présidents d'université qui ont dit laissez ça au débat politicien, hein, au plateau de télé et de radio, mais certainement pas dans la bouche d'une ministre de la recherche.
Ouais. Bon, Elisabeth Lévy, votre position par rapport à ce que dit Alexis Poulain à l'instant.
Et alors, je réagis à l'ensemble de sa chronique que j'ai écoutée. Ouais. Je vous remercie, cher Alexis, pour votre imitation qui était très bonne. Une seule.
D'Elisabeth
Lévy. Un texte
Lévy,
assez court. Ouais. Un texte assez court, mais très bien.
Très efficace. Ouais.
Mais merci, je bouillais un peu en entendant. Alors, je vais vous rendre un point sur une chose. Est-ce que c'est à la ministre de le faire? Parce que c'était quand même ça le sens de votre chronique. Je n'en sais rien, mais je trouve que vous minimisez un peu le problème. Parce qu'en réalité, le problème n'est pas de pointer, si vous voulez, de pauvres universitaires de gauche. Excusez-moi, 90% des universitaires sont de gauche. Donc ça, c'est vrai depuis fort longtemps.
Vous avez des statistiques, vous?
Oh non, mais écoutez, demandez à n'importe quel connaisseur des milieux universitaires. Maintenant, ouais, on peut plus parler de rien sans avoir de statistiques. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Bon, d'accord. Alors, bon. Non, donc c'est complètement bidon. Les universités ne sont pas de gauche. D'accord. Bon, écoutez. Non, mais c'est pas ça
tout,
le problème. Le problème est un grave.
C'est pas de gauche.
J'ai pas dit 100%. Je vous ai dit un très grand. J'ai pas dit 100%. Je vous ai dit. Voilà. Merci Cécile, une arbitre. Non mais le problème, si vous voulez, qui est beaucoup plus grave que ce que vous avez l'air de penser, c'est un problème de pluralisme. Et moi je crois qu'effectivement la ministre aurait dû dire, nous devons faire respecter le pluralisme. Alors par ailleurs, qu'on demande au CNRS, si vous voulez, de travailler sur ces questions, ça ne me dérange pas, puisque c'est de la recherche, le CNRS. Mais effectivement, c'est pas le rôle de la ministre de dire que telle ou telle idéologie n'est pas la bienvenue. En revanche, et je sais que Patrick l'a rappelé pendant votre chronique, si vous voulez, vous avez l'air de dire, oui, il y a quelques conférences qui ont été annulées, mais c'est un scandale. C'est un scandale que Alain Finkielkraut ne puisse pas aller à Sciences Po, c'est un scandale qu'on ne puisse pas, dans une université aujourd'hui, défendre un point de vue hostile à la PMA, ce qu'avait voulu faire Madame Agazinski, etc., etc. Et je ne vous parle même pas de l'écriture inclusive, qui, malgré une circulaire d'Édouard Philippe de 2017, est employée dans les échanges administratifs d'un grand nombre d'universités et de grandes écoles. Donc,
ça va
méthode,
au-delà de l'islamo-gauchisme, dans ce que vous dites.
Ça va au-delà. Ce qui me gêne, en fait, c'est pas.
C'est la grande seule culture, alors.
Oui, mais là où je peux rejoindre Alexis, c'est sur la méthode. Est-ce que, si vous voulez, encore une commission Théodule, encore un rapport, etc. Donc voilà, ça, je peux vous rejoindre, mais la réalité du problème, Alexis, je trouve que vous la minimisez, parce que le pluralisme, si vous voulez, c'est le nerf de la guerre universitaire, je dirais. Le nerf de la recherche.
Elisabeth, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est bien le problème qu'a maladroitement levé Frédéric Vidal en disant évidemment que c'est étonnant de dire que on ne sait pas les travaux de recherche finalement. Et évidemment que derrière, il y a peut-être un angle politique beaucoup trop fort et qu'il y a une baisse du pluralisme. Et l'université, je suis d'accord avec vous, c'est le lieu du débat justement, c'est le lieu de la liberté de parole. Et je suis, comme vous, choqué quand on ne peut pas venir débattre, c'était le cas de François Hollande, Alain Finkielkraut et d'autres, tout simplement parce que vous avez une frange radicale qui refuse le débat. Et ça, c'est inacceptable, puisque ça devrait être la chose la plus préservée, c'est cette culture de la confrontation et du débat au sein des universités. Et donc, la recherche...
Quand t'as Marlène Schiappa qui fait la chasse aux petites filles complexées, là, vous charriez grave.
Bah non, mais c'est vrai, sur le truc l'allergie au chlore,
pas la chasse aux petites filles complexées. Vous savez bien que c'est pas par complexe que des tas de petites filles ne vont pas à la piscine, Alexis, enfin.
Bah non, je...
Maintenant, il y a des certificats d'allergie au chlore. Bah, en masse. Hein.
Oui, mmh. Bah après, bon, je comprends qu'il y ait des enfants qui n'aient pas envie d'aller à la piscine.
Ça, c'est, voilà. Ça existe.
Ouais, ouais, des parents. Donc ça n'a rien à voir avec des raisons religieuses.
Après, salons quand même l'éducation nationale qui permet à beaucoup d'apprendre à nager. Mmh. C'est ça qui est important de souligner, c'est qu'on perd ce côté commun, on perd ce côté société où finalement c'est à la carte. Et plus ça va être à la carte, d'ailleurs c'est la réforme Blanquer hein, du bac, je crois que c'est pas une bonne chose en fait le truc à la carte, parce que ça fait que finalement on a plus de commun. Et donc le séparatisme il est partout, il est pas dans l'islamisme
ou bien
ailleurs,
sûr, ah oui,
il est dans cette façon de vivre
partout.
Un pays à la carte.
Bon, allez, ça, si vous voulez réagir, on continue le débat dans un instant. Attendez, ce n'est pas terminé. Elisabeth Lévy, Alexis Poulain et vous au 0826 300 300, vous avez envie de réagir en entendant nos deux débatteurs ce matin, ou interpellé par les sujets en fait du jour, le séparatisme, islamo-gauchisme ou pas dans les universités, ou aussi le passeport vaccinal. Est-ce que on en parle ce matin, parce que nous recevions le ministre du tourisme, le secrétaire
Jean-Baptiste
d'État, Jean-Baptiste
Lemoine,
qui dit que lui, pour l'instant, c'est prématuré de poser en fait cette question. Certains professionnels dans le monde du tourisme qui voient quand même que ce milieu s'effondre, il ne faut pas oublier que l'économie française repose en partie sur le tourisme, hein, bien sûr, disent qu'il faudrait quand même faire quelque chose. Bah écoutez, tous les arguments sont à entendre dans un instant, avant de parler football.
Restez avec nous, on revient dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et c'est la suite du petit déjeuner de l'actu et de vos appels comme tous les matins, 0826 300 300, avec Claude qui nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Claude.
Bonjour Claude.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce qui vous fait réagir, vous, dans l'actualité, mon cher Claude, ce matin ?
Non, pour le passeport vaccinal, donc je voudrais revenir là-dessus. Je trouve ça totalement inadapté. Un, parce que, je vais vous détailler.
Oui.
Un, parce que le vaccin, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait efficace par rapport au pourcentage qu'ils avaient donné. Oui. Deux, on ne sait pas si la transmission ne se fait ou ne se fait pas.
C'est
par
vrai.
Rapport à une fois que les personnes sont vaccinées. Trois, par rapport aux variants, on s'aperçoit que le vaccin n'est pas efficace non plus. Ça, donc, ça veut dire que ce passeport, c'est une fausse sécurité. D'autant plus qu'on devrait plus garder autant pour le vaccin. Moi, je suis pour les vaccins. Les vaccins, quand ça marche. Donc, garder d'un côté les vaccins. Par contre, plus ça peut sentir sur le préventif, comme on sait que la vitamine D, le zinc, ça fonctionne, ainsi que les traitements antibiotiques. Il y a plein d'antibiotiques, traitements antibiotiques et un antifongique aux zombies, on a vu en Amérique du Sud, qui fonctionne pour lutter contre la maladie. Et votre auditeur précédent, avec Nice Matin, si je ne me trompe pas,
oui.
Montre bien que les chiffres qui ont été donnés pour apeurer la population, voilà, ont été totalement erronés. On arrive maintenant sur des vrais chiffres, sur des réelles données. Effectivement, il y a une maladie qui n'est pas aussi dangereuse que ce qu'elle était, et on a des traitements, et là on fait la richesse des laboratoires, et on vient priver nos libertés sur un pseudo-passeport pour une pseudo-sécurité, ce qui est totalement délirant.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a aussi une dose d'inconnu, quoi. Je pense que si on s'est précipité en fait sur certaines choses, je ne veux pas défendre qui que ce soit, mais il y avait une dose d'inconnu avec cette maladie, et encore d'ailleurs aujourd'hui, quoi. Claude,
mais non, mais en plus, puisque les coronas sont des virus qui sont déjà connus, qui existaient déjà depuis pas mal d'années, donc il y a eu déjà des études qui ont été faites dessus, mais pour moi il y a quand même beaucoup plus de pression au niveau des laboratoires, on l'a vu par rapport aux différents traitements déjà précédemment qui ont été mis en place, qui ont été vendus, dont un qui était super inefficace et qui a priori est mutagène, donc, et qui a été acheté pour 1 milliard d'euros quand même, au niveau de, c'est quand même notre argent. Vous voyez, c'est totalement délirant. Lorsqu'on voit sur les vaccins, on ne peut pas avoir accès avec notre argent, on a acheté des vaccins et on ne peut pas avoir l'ensemble des contrats, mais c'est totalement fou.
Ouais.
C'est totalement fou de voir ça, monsieur. Bon, vous vous rendez compte, toutes nos libertés qui sont là, on est là, c'est notre liberté qui est prise en compte, c'est notre argent. Et donc Dieu nous dit, monsieur, avec votre argent, on fait ce qu'on veut, on achète ce qu'on veut et on ne vous dit pas pourquoi.
Mais sur le fond, vous êtes plutôt favorable, ce que vous disiez au début, au vaccin, s'il est au point ?
Alors, je suis favorable au traitement, quel qu'il soit, du moment qu'il fonctionne.
Oui, c'est ça.
Quel qu'il soit.
Oui,
mais
oui.
Là, voilà. Mais là, on part sur tout vaccin. Mais c'est du pipeau le plus complet. Ouais, c'est pas tout vaccin. Il n'y a pas que vaccin. Effectivement, il y a beaucoup d'argent à faire sur le vaccin. Énormément, énormément d'argent. Et l'argent dirige le monde. Et voilà. Et vous avez une pression sur le laboratoire.
C'est vrai qu'on espère tous qu'il y ait un traitement efficace aussi, que ce soit.
Il y a des traitements, monsieur.
Oui, mais alors, ils ne sont pas tous. Non, mais Claude, certains peuvent marcher, mais ils ne sont pas tous avec une efficacité 100%. Claude, vous ne pouvez pas dire ça.
Mais j'ai jamais dit ça.
Ah bon, non, mais c'est pour ça.
Non,
mais de toute manière, c'est comme beaucoup beaucoup des médicaments. Hein.
Et c'est pour ça qu'actuellement, vous entendez sur toutes les chaînes actuellement en radio, vaccin, c'est notre porte de sortie, ce qu'il faut. Il y a quand même les médecins qui se réunissent, il y a un comité du 9 janvier avec les 30 000 médecins et professeurs et 100 000 citoyens qui reprennent des études et qui font différents comités, différents groupes de recherche sur les vaccins, sur les traitements, sur les décès, sur tout ça, et pour redire réellement ce qui est fait. C'est des médecins, des professeurs. Ouais. C'est 30 000, c'est pas 2-3.
Ça fait partie des portes. Oui, c'est vrai, ça fait partie des portes de sortie. Quoi. Ouais, ça fait partie.
Quand même, vous voyez, c'est cet abattage médiatique, ce matraquage médiatique, vous voyez, de ceux qui est extrêmement...
Oui, mais en même temps, Claude, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Claude, mon cher Claude?
Alors, moi, j'ai souvent un champ de métier. Actuellement, je suis infirmier, mais j'ai fait 7 métiers différents, et j'ai encore une dizaine à travailler, donc il y a des chances que je change encore de métier.
Bah oui, c'est vrai. Et vous êtes comme beaucoup d'auditeurs qui disent on voudrait pouvoir retravailler parce qu'il y a des secteurs qui sont à l'arrêt complet, certains qui bénéficient d'aide et d'autres pas. Et donc, il faut absolument trouver une solution.
Mais ce qui est fait, monsieur, actuellement, est une folie. C'est une folie, mettre, fracasser toutes les entreprises, tous ces gens. Rendez compte, tous ces gens qui ont mis toute leur vie dans leur métier. Et qui se... Parce que pour une pseudo-pandémie, reprenez les chiffres, monsieur. C'est une pseudo-pandémie. Reprenez les chiffres réels qui ont été...
C'est vrai, bon, sauf qu'elle touche l'ensemble de la planète et qu'elle...
C'est une maladie que l'on peut soigner, que l'on peut traiter avec très peu de morts. Là où est-ce qu'il faudrait se poser la question, c'est pourquoi on a fait autant de l'ensemble de la planète. Remarquez, c'est comme les pays qui ont le plus d'argent où ça...
Ah bah oui, où il y aura...
Où il y a autant de folie et autant de peur qui est mis en place.
Et vous savez, Claude, c'est vrai que sur le passeport vaccinal, ça pose en fait une question que l'on va évoquer avec Alexis Poulain et donc avec Elisabeth Lévy, et puis aussi avec Aurore Boyard, qui est avocate, qui intervient tous les week-ends donc sur Sud Radio, qui est avec nous. Maître Boyard, bonjour.
Oui, bonjour.
Parce que vous dites sur le passeport vaccinal qu'il y a un principe de rupture d'égalité, quoi.
Bien sûr, pour l'instant, le vaccin n'est pas accessible à tous les citoyens. Ouais. On ne dispose pas de vaccins suffisants pour vacciner toute la population française. On va donc se heurter à un principe constitutionnel qui est l'égalité des citoyens devant la loi. Donc pourquoi créer un passeport vaccinal et donc obliger les gens à se faire vacciner, sachant que le vaccin n'est pas accessible à l'ensemble de la population? Donc si le droit à la santé est un principe constitutionnel, il va venir heurter plusieurs principes constitutionnels, dont celui d'aller y venir, la liberté d'aller y venir. Celui-là, on sait que de toute façon, il a bien été attaqué par les mesures gouvernementales, mais il y a un principe quand même, c'est l'égalité des citoyens devant la loi, et notamment à partir du moment où le vaccin n'est pas accessible à tout le monde, je ne vois pas comment le passeport vaccinal pourrait être déclaré constitutionnel. Il faut quand même voir, et on le voit depuis maintenant, depuis que ce gouvernement est en place, énormément de lois qui ont été votées ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, encore une il n'y a pas longtemps, sur la visioconférence à outrance dans les juridictions. Donc moi je pense, en tant qu'avocate, en tant que juriste, qu'il y a un gros risque que de toute façon cette loi soit retoquée par le Conseil constitutionnel, et je pense qu'il y aura des recours.
Bon, pour l'instant, c'est pas fait. Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, restez avec nous. Quoi.
Je trouve que cette idée, de toute façon, la France, d'ailleurs... c'est à souligner, le plus sceptique des pays européens par rapport à cette idée de passeport vaccinal. Et heureusement, parce que vous avez des pays comme la Grèce, la Suède, le Danemark, qui eux veulent un passeport dès maintenant.
Ouais, enfin, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Oui, on l'a vu pour la Grèce, mais bon.
L'OMS qui pousse à avoir... Mais on parle de passeport vaccinal, en fait, ce serait un truc sur les téléphones portables pour tracer les gens, pour dire, voilà, j'ai mon truc, j'ai mon
test PCR. Vous êtes déjà tracé, hein, vous le savez.
Oui, voilà, mais c'est juste aller un peu plus loin et dire, ah bah pour aller au restaurant, pour aller au théâtre, pour le cinéma, vous allez devoir montrer votre petit truc. Ça commence à bien faire. Ouais. Et c'est vrai que derrière, cette crise sanitaire débouche sur une crise économique et sur une crise sécuritaire, où finalement on voit la sape systématique des libertés sous prétexte de faire le bien des populations.
Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Il y en a certains qui disent que si moi je retourne au travail, je voudrais savoir si la personne qui est en face de moi est positive ou pas. Non, mais je vous le dis, en fait,
d'observation. Faisons des tests, d'accord, savoir si vous l'avez eu ou pas,
Elisabeth, dans un instant.
Marche ou pas. Pour ce qui est du vaccin, c'est quand même évidemment un truc qui fait qu'avec les variants, il faut se revacciner, il faut changer les vaccins. On parle de 15 milliards de profits pour Pfizer cette année. Ça voudrait dire un vaccin annuel, voire biannuel, pour se mettre à jour. Alors que, comme le disait cet auditeur, et avec raison,
Claude,
le virus n'est pas si si mortel que ça. Et donc pourquoi en faire
pour des
autant.
Personnes fragiles, il est.
Oui,
quoi.
Il l'est bien sûr. Et mais alors que les personnes fragiles fassent un vaccin, mais qu'on ne demande pas un passeport vaccinal pour tous, parce que derrière, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation vaccinale.
Oui.
Et c'est le problème pour ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner, soulevé par notre avocate.
Oui, oui, oui.
Et donc, je vois pas pourquoi on a ce débat-là en réalité, alors qu'on on est loin d'avoir vacciné une masse critique des populations au niveau mondial.
Oui.
Alors que tout est encore fermé, les frontières se ferment, continuent de se fermer, on n'a pas repris le tourisme, on ne sait pas dans quel état il sera cet été. On voit des solutions de fermer des stations de ski alors qu'elles sont ouvertes en Suisse, au Tyrol et ailleurs. En France, non, on a décidé que non. Alors je ne vois pas pourquoi, soi-disant que ça aurait fait des clusters. Et derrière, vous avez une ministre qui dit embaucher les saisonniers parce qu'on va leur donner de l'argent pour ne pas travailler. On marche sur la tête.
Qui va refaire toute l'histoire de l'épidémie?
Oui,
mais je crois que sur ce principe-là, on est dans une folie économique et liberticide avant d'être dans une folie sanitaire.
Elisabeth,
vous
et puis on prendra.
Vous êtes, cher Alexis, et pardon, Maître Boyard, un peu aussi, dans une folie égalitariste. Parce qu'en fait, d'abord, moi je veux bien, alors on nous dit ça va être inconstitutionnel, bah, vous le direz à tous les pays qui, eux, vont demander soit pas une preuve de vaccin, soit des tests immédiats, des mesures tout à fait... Attendez, donc, si vous voulez, et tout ça au nom d'un argument qui, à mon avis, est le pire. Alors, je laisse de côté les arguments scientifiques, parce que là, j'ai aucune compétence. Effectivement, si le vaccin ne marche pas, le passeport vaccinal a peu d'intérêt. En revanche, si vous voulez, si on a le choix entre... empêcher par exemple tout le monde d'aller au théâtre et autoriser seulement ceux qui ont voulu se faire vacciner à aller au théâtre, excusez-moi, l'idée qu'il faut qu'on soit tous malheureux pour respecter le principe d'égalité me paraît être une folie totalement idéologique. C'est-à-dire, je ne veux pas, moi, me faire vacciner, mais je refuse que ceux qui se sont fait vacciner, je veux dire, récupèrent plus de marge de manœuvre. Mais on est complètement fou dans ce pays, vraiment. On a une vision de l'égalité, c'est toujours l'assiette du voisin. C'est-à-dire, ce que j'ai dans mon assiette, bon, c'est intéressant, mais ce qui m'importe surtout, c'est que mon voisin soit aussi malheureux que moi. Mais ouais, je trouve ça insensé.
Maître Boyard.
Le vaccin n'est pas accessible à toute la population française, je suis désolée. Est-ce qu'on a 66 millions de vaccins actuellement en France? C'est tout le problème qui se pose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vaccin, tout le monde aura accès au vaccin, là, le passeport vaccinal pourrait peut-être être constitutionnel parce que tout le monde aura le choix de se faire vacciner ou pas, et encore, ça sera examiné. Mais pour l'instant, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas tous accès au vaccin, on le sait parfaitement. Donc, partant de là, à partir du moment où nous n'avons pas accès au vaccin, c'est la différence avec toutes les autres maladies, comme le DT polio. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner le DT polio, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner quand vous êtes jeune par rapport au Covid, vous ne pouvez pas, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que demain, je ne peux pas aller moi à la pharmacie pour qu'on me donne un vaccin pour me faire vacciner. Toute la différence. C'est une nuance importante. Quand le vaccin sera accessible à tout le monde, peut-être, mais là, il ne l'est pas. Donc, ça
mais d'accord, donc ça veut dire que tant que le vaccin n'est pas accessible à tout le monde, moi, j'ai eu mon vaccin, donc je pourrais éventuellement, mettons, si c'était autorisé, aller au cinéma puisque j'ai eu mon vaccin, mais puisque vous ne pouvez pas y aller, il vous importe absolument que je ne puisse pas y aller non plus, excusez-moi.
C'est pas ça.
Mais non, dis pas ça.
Bah
si.
Moi, je n'ai pas le droit au vaccin,
si,
madame.
Puisque vous n'avez pas eu le vaccin.
Attendez, là, vous parlez ensemble, on ne vous entend plus. Maître Boyard et ensuite Elisabeth Lévy.
Le vaccin ne m'est pas accessible, madame Lévy. Si aujourd'hui, je souhaite me faire vacciner, je ne peux pas. Donc c'est là où il y a une rupture d'égalité. C'est-à-dire
oui,
que
j'ai
vous,
compris.
Vous pouvez peut-être vous faire vacciner, mais bah, voilà. Donc à partir du moment où moi, je
non, mais j'ai
pas
compris, mais laissez-moi vous répondre. J'ai parfaitement compris. Donc ce que vous dites, c'est que, supposons, on va le faire dans l'autre sens, peut-être ce sera plus simple, j'ai du mal à m'exprimer, supposons que vous ayez eu accès au vaccin et que moi, je n'ai pas eu accès au vaccin. Eh bien, excusez-moi de vous dire, ça ne m'enlèvera rien. Absolument rien, si vous qui avez eu accès au vaccin, et moi non, vous pouvez aller au cinéma et moi pas. Le fait que vous puissiez aller au cinéma ne va rien m'enlever. Si vous laissez du ressentiment, c'est l'idée que ça me frustrerait que vous alliez au cinéma puisque vous avez eu la chance d'avoir accès au vaccin et que moi je n'y ai pas eu accès. Eh bien, je suis contente pour vous. Si vous voulez, ça m'est totalement égal.
Non, mais Elisabeth, vous ne pouvez pas raisonner raisonner comme ça parce que
c'est à l'envers en fait.
Mais non, mais c'est pas que ça.
Complètement à l'envers. Le problème, il est très simple. Tout le monde doit pouvoir avoir les mêmes droits. Ouais, ouais. C'est l'égalité des citoyens. Tout le monde doit tous avoir le même droit. On devrait tous avoir accès au vaccin. Ça n'est pas le cas. Donc, le passeport vaccinal serait mettre des contraintes déjà supplémentaires aux personnes qui n'ont pas accès au vaccin. Ça n'est pas possible juridiquement. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut modifier la Constitution française. Il faut modifier notre principe d'égalité des citoyennes dans la loi. Et ça, nous ne sommes absolument pas d'accord.
Donc, si on...
C'est le principe de la République.
Ouais.
Tout simplement, la démocratie, et nous sommes encore en démocratie, enfin il me semble.
Oui, bon, quittez pas, on revient dans un instant, on va poursuivre et conclure ce débat avant d'accueillir aussi Frédéric Thiriez. Hein. Donc là, c'est autre chose, on parlera de ses ambitions. C'est quand même assez incroyable, hein. Il y a des élections, dès qu'il y a des élections, ça, il y a des tensions. C'est pas qu'en politique, et là c'est la même chose dans le football. Il est candidat face au président sortant, hein, Noël Le Graët. Et puis il y a un autre candidat, Michel Moulin. Nous en parlerons dans quelques minutes également.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Et on continue le petit déjeuner de l'actu hein, ce matin avec pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux.
Oui, beaucoup de commentaires autour de cette question que l'on pose. Hein, simplement, est-ce que vous êtes favorable ou pas donc à un passeport vaccinal pour voyager notamment, mais aussi pour d'autres choses telles que aller sur des lieux festifs, des spectacles, etc. Des questions. Alors, il y a Vincent par exemple qui dit « Qu'est-ce que vous faites du secret médical si le virus est dangereux et si dangereux que ça, bah, pourquoi on n'oblige pas, on va pas nous obliger demain aussi à prendre de vaccins pour aller travailler, quoi. Donc, il dit attention, il y a de la manipulation. En fait, derrière, il y a Sand qui dit, je suis très en colère, les gens ne réfléchissent plus, le gouvernement et les médias ont bien travaillé, comment accepter une telle mesure Enfin bon, voilà, c'est assez... Il y a un déchaînement. Il y en a même, il y a Stéphane qui, pour vous, ma chère Elisabeth, dit, donner le vaccin à une camomille à Elisabeth Lévy. Bon, en souriant, avec du sourire. Bon,
oui,
voilà.
Mais
bon,
ouais, très bien, je prends la camomille. Bon. Mais, non, mais je suis très frappé, parce que là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de mesures de principe, s'agit juste de dire, voilà, nous pouvons éventuellement, encore une fois, si c'est confirmé scientifiquement. Là-dessus, je suis vraiment perdu, aussi perdu que beaucoup de gens. Mais en supposant que le vaccin protège, donc la question c'est, de la même façon, est-ce que il vous faut un passeport pour aller à l'étranger ? Ben oui, si des pays, si l'Italie ou l'Allemagne ou d'autres pays décident de demander un passeport, et ben vous n'aurez pas le choix de toute façon. Si vous voulez y aller, vous aurez à le faire. Vous devez, de toute façon, vous adapter. Ce que j'essaye de dire, c'est que moi, je n'en fais pas une question de morale ou de principe, et que si mes concitoyens, si vous voulez, qui ont eu la chance, parce qu'ils sont habitués, je sais pas, pour des tas de raisons, d'être vaccinés avant moi, peuvent se libérer un peu plus avant moi, je ne vois pas en quoi cela m'enlève quelque chose. Et ce que je veux dire, c'est que au-delà de cette affaire de vaccin, je suis toujours très frappée par le fait que l'égalité dans ce pays, c'est pas seulement... C'est qu'en gros, il faut surtout que les autres soient aussi malheureux que moi. Et moi, eh bien, le malheur des autres ne m'apporte rien. Si quelqu'un a plus de chance que moi, je suis contente pour lui et je ne me sentirai pas brimée ou pas en démocratie, si vous voulez. Parce qu'à ce compte-là, on peut dire qu'il faut fermer tous les cinémas parce qu'il y a des tas de gens en France qui n'ont pas accès à des cinémas. Il y a des gens qui habitent dans des village, ils n'ont pas de cinéma, bah alors fermons les cinémas, ils n'ont pas de bibliothèque, fermons les bibliothèques publiques.
Alexis Poulain et Maître Boyard.
Non, mais,
et puis vos appels, hein, 0826-300-300 si vous voulez
La vraie question, c'est sur l'efficacité effectivement du vaccin quant à la non-propagation de l'épidémie, ce qui reste à voir. Alors après, ça permet d'avoir des formes moindres, etc., mais ça pose des questions sur la capacité de production, sur la question du bien commun qui a été posée par Emmanuel Macron en disant s'il y a un vaccin, alors ça doit être un bien commun de l'humanité. On en est loin. Ça reste propriété des labos qui vont faire des milliards sur le dos des vaccins, donc c'est très bien pour eux, mais où est la planification au niveau de l'OMS ? Et puis derrière, vous avez ce principe de passeport vaccinal qui existe depuis des années. La Commission européenne travaille dessus depuis 2018, avant le Covid, en parlant des maladies qui peuvent être traitées par vaccin et qui voulaient faire un passeport communautaire au niveau de l'Union européenne sur ce passeport vaccinal pour 2022. Donc ça va accélérer des choses qui sont déjà là. C'est ce que fait l'OMS, travaille dessus, les grands de la technologie travaillent dessus, cette idée de nouveaux passeports biométriques d'une certaine façon. Le seul problème que ça pose, c'est la temporalité. Pour le passeport biométrique, par exemple, il y a eu 10 ans de débat, il y a eu 10 ans de
c'est vrai, on va y arriver. Bien sûr.
Et là, on sort un truc, c'est encore pire, puisque c'est même plus biométrique, là, c'est biochimique. Donc vous avez une substance en vous qui fait que vous avez le droit de voyager. Et il faudrait faire 6 mois de débat.
Pour aller en Afrique, Alexis.
Non mais, pardon ?
Pour aller en Afrique, il faut se vacciner contre la fièvre jaune et le choléra, et vous le faites.
Dans certaines régions,
si vous voulez aller en Afrique, vous le faites.
Ou prendre des traitements. Ou prendre des traitements.
Oui, mais d'accord, mais enfin, il y a des pays qui vous imposent des vaccins.
Il n'y a pas que le vaccin, il y a aussi des traitements. Et qui sont en train d'ailleurs d'être mis en place par des laboratoires français et ailleurs. Donc, pourquoi tout miser sur le principe de la vaccination ? Ça peut être le principe du test négatif, ça peut être le principe de traitement préventif, ça peut être le principe du vaccin également. Mais pourquoi vouloir absolument un passeport vaccinal ? Là, ça pose question. Et comme je le dis, pour le passeport biométrique, 10 ans de débat, là il faudrait qu'en 6 mois tout se mette en place pour 2022. Non, soyons réalistes, il y a des débats juridiques.
Ah bah non, même avant 2022, même avant 2022.
Enfin, ouais. Avant, c'est ouais. Même pas la peine d'y ouais. Penser. Ouais. Mais il y a des débats éthiques aussi qui doivent avoir lieu. Et on fait comme si tout ça n'avait pas de raison d'être, comme si c'était normal, comme s'il fallait absolument maintenant avoir une transparence, plus de secret médical.
Oui, parce qu'il y a la question du secret médical, bien sûr, bien sûr, qui est posée aussi sur les réseaux sociaux. Là.
Ouais. Évidemment. Et après, c'est quoi ? On va vous demander si vous avez vos rappels. Parce que commencez avec ça, sur les rappels de vaccination, BCG et autres, dans la population française. Rien que là, vous avez déjà un gros trou. Alors pourquoi on n'a pas fait déjà ce genre de choses ? Pourquoi le Covid, d'un seul coup, favorise toute cette mise en place de la technosurveillance ? Parce que derrière, c'est de la technosurveillance. Ouais. C'est ouvrir les gens et au
cela
plus
dit,
près de où ils vont.
Sans vouloir défendre et prendre position... Bah... Si on regarde en Asie,
mais si vous pouvez me défendre,
oui, non mais moi, oui c'est vrai. Non mais sur le principe de la technologie, sur ce que vous disiez Alexis à l'instant, quand on regarde ce qui se fait dans certains pays asiatiques, c'est cette technologie qui en partie leur permet aussi de lutter contre ça.
Mais vous voulez vivre en Corée à la chinoise,
du Sud ? Non mais je parle de la Corée du Sud. Je parle pas forcément de la Corée du Sud. C'est vrai qu'il y a un tas d'alertes. Moi j'ai été concerné parce que je suis aller là-bas avant le Covid et j'ai vu qu'il y avait vous étiez alors que je n'étais pas sur les réseaux évidemment coréens, il y avait une alerte météo très forte, votre téléphone sonnait immédiatement pour vous dire voilà ce qui va se passer en fait dans votre secteur là où vous êtes, etc. Et face à la pandémie, c'est un peu comme ça qu'ils ont réussi à réguler. Résultat, ils ont moins de 100 morts.
Ils sont très forts parce qu'ils ont l'habitude de ce type de grippe, le H1N1, etc.
C'est vrai,
nous on le découvre, eux ils ont l'habitude. Et puis autre chose, c'est le problème de ça. Alors, c'est très bien en termes de prévention, évidemment. On l'a aussi en France. Vous avez Facebook avec son bouton safe. Enfin, tout le monde est en train de mettre ça en place. Le problème, c'est après la technosurveillance et surtout la technocoercition. Quand en Chine, vous ne pouvez plus sortir de chez vous ou vous êtes un citoyen de seconde zone si vous n'êtes pas dans les codes verts, orange et rouge, vous savez, en fonction de ce que vous faites dans la rue et de comment vous vous comportez, si vous payez vos impôts ou pas, si, etc. etc. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de choses ? Est-ce qu'on veut vivre sous l'égide du Parti communiste chinois qui centralise tout et qui fait que vous n'avez plus le droit de sortir chez vous si vous n'êtes pas un bon citoyen, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on a envie de cet avenir-là.
Oui. Du côté, justement, de la législation et de la Constitution, Aurore Boyard, c'est vrai que ça pose un certain nombre en fait, de questions. D'ailleurs, au tout début de l'application Covid, il y a eu ces débats, quoi.
Bien sûr. Bah, de toute façon, la France même si on restreint nos libertés, est encore un pays de principe de liberté. Il faut notre consentement. Pour télécharger l'application Covid, vous donnez votre consentement. Ouais. La difficulté qui se pose avec le vaccin vaccinal aujourd'hui, je le rappelle, c'est qu'on peut donner notre consentement pour avoir le vaccin. On n'y a pas accès à partir du moment où on ne remplit pas les conditions pour l'avoir, puisque l'intégralité des Français ne peuvent pas être vaccinés. C'est tout le débat. Si aujourd'hui le vaccin était à disposition des 70 millions de Français, le débat ne se poserait pas par rapport à ces principes constitutionnels. Voilà. Mais ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat et c'est cette question-là que doit d'abord trancher le gouvernement. À mon sens, de toute façon, comme disait M. Poulain, ce débat, il est beaucoup trop tôt. Ce débat se posera véritablement lorsque les 70 millions de Français auront accès au vaccin. À ce moment-là, on pourra parler de passeport vaccinal. Et pour répondre, effectivement, quand on doit aller à l'étranger, effectivement, mais c'est les lois étrangères qui s'appliquent à nous. Ce n'est pas la loi française. Moi, je parle des lois françaises. Aujourd'hui, Pour mon sens, on ne peut pas. Les Français sont trop attachés en plus à leur liberté et on a ces principes-là qui datent de 1789. C'est important et on doit les respecter. Donc en France, donc, on ne pourra pas, pour moi, instaurer de passeport vaccinal. À mon sens, il y a un gros risque que ce soit déclaré.
Il peut y avoir un certificat, quelque chose.
Les Français, en fait, sont tellement attachés. Les Français sont tellement attachés à leur liberté que tant que eux n'ont pas recouvré leur liberté, ils préfèrent restreindre celle des autres. Excusez-moi, moi je crois que là il y a encore un dévoiement, pardonnez-moi, je vais finir, un dévoiement du principe d'égalité, c'est-à-dire sur le plan juridique, vous avez certainement raison. Moi c'est sur le plan, si vous voulez, comment dire, de notre de ce qu'on a dans le crâne, c'est-à-dire l'esprit que ça révèle, c'est-à-dire vraiment je suis frappée par le fait que l'égalité pour nous c'est une question de jalousie parfois, c'est-à-dire attention que personne n'ait plus que moi parce que ça ce serait terrible. Alors, mais en l'occurrence on fait une question c'est un peu ce que vous m'avez dit.
Non, pas du tout. Non, j'essayais de vous donner un exemple, parce que si vous voulez, moi, j'ai pas de comorbidité, j'ai pas tout ça, j'ai pas accès. Moi, je suis pas jalouse que les gens y aient accès, je ne suis même pas certaine de me faire vacciner, hein, madame Lévy, que ça soit bien clair. Puisqu'il y a des tas de problèmes à côté. Non, le problème, c'est un problème de volonté, c'est tout. Et aujourd'hui, tant qu'on n'a pas accès au vaccin, tant que les 60, on n'a pas le choix. Le problème, c'est un problème de choix. Tout le monde doit pouvoir avoir le choix. Aujourd'hui, tous les Français n'ont pas le choix.
Bon, voilà. Merci. En tout cas, c'était un bon débat. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Maître Boyard, Claude, qui était avec nous des Hautes-Pyrénées, et vous, évidemment, de l'autre côté, et puis sur les réseaux sociaux, et continuez de nous appeler 0826-300-300, parlons vrai, et on a envie d'entendre tous les arguments, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, évidemment, et puis on se respecte surtout. Allez, autre sujet jusqu'à 10h, vous allez voir, c'est particulièrement intéressant, et même pour ceux qui ne sont pas des fondus de football, de football, comme Alexis Poulain qui aime bien regarder de temps en temps, mais sans plus quoi. Sans,
oui, moi je suis pas. Voilà, c'est ça.
Bon, il regarde un beau but quand il y a un beau but, quoi. Voilà. Hein, c'est ça.
C'est un gros marché.
Monde,
ouais.
C'est ça. Ouais.
Non, mais ça, monde, c'est, ça, ça fait et, travailler
et,
beaucoup
et
de gens.
Et mon équipe de cœur, le DFCO, hein, Dijon.
Dijon.
Vous avez vu le blanc derrière?
C'est ça. Il y a toujours à Dijon, dites donc.
Mais ça ne va pas très fort.
Non, ça ne va pas très fort. Saison après saison, ça ne va pas très fort.
Et vous allez voir que les petits clubs intéressent Frédéric Thiriez.
Oui, absolument. Bah,
c'est important. Les petits clubs. Petit club Dijon, dites donc.
Non. C'est plus professionnel.
C'est pas non plus un grand club. C'est un club qui se respecte. C'est pas non plus un grand club.
Des hauts et des bas.
Il y a énormément de questions en tout cas.
Je disais pas en qualité, je disais en taille.
Non, mais c'est vrai sur les bénévoles, les
amateurs.
Amateurs, mais même le football aussi professionnel, où va-t-il? La folie en fait des salaires, etc. Il y a énormément de questions qu'on va poser à Frédéric Thiriez, qui est candidat donc à la Fédération française de football dans un instant.
Restez avec nous et vos appels 0826 300 300.